Exactement, midi 32 minutes sur Boulevard 101. Vous êtes à l'émission On en jase. Pour nous joindre, 418-971-1021. BLVD.fm pour nous écouter également via notre web radio. Et on met les meilleurs moments de l'émission immédiatement après l'émission. Vous pouvez réécouter en tout temps. Pour notre émission, comme pour les autres émissions de la grille horaire, Boulevard 101, c'est l'application App Store, Google Play Store. Téléchargez-les, elle est gratuite. Avec les haut-parleurs intelligents, vous n'avez qu'à dire « Écoutez BLVD 101 » et on apparaît dans vos oreilles. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que plein de contenus exclusifs s'y retrouvent, notamment les podcasts Grands Événements. Et ce soir, podcast Grands Événements, Pascal CV, on revient sur le départ des Nordiques. Oh, que j'ai le cœur brisé quand on parle de ça. J'avais participé à la marche. J'avais loafé de l'école secondaire pour aller marcher pour sauver nos Nordiques. Mais ils nous ont quittés il y a de cela 30 ans. C'est le journaliste Stéphane Cadorette. À l'époque, c'était son père Claude qui était sur le beat, comme on dit, des Nordiques. Alors qu'il s'entretient avec Denis Gravel. Ça va être une discussion très, très, très intéressante. Surtout dans la foulée des séries de la Ligue nationale de hockey. Manquez pas ça, c'est à 19h ce soir sur les ondes de Boulevard 102.1. Ça se retrouve sur notre page YouTube dès le lendemain. Et le podcast des grands événements est une présentation de Climatisation Paquette. Climatisation Paquette, c'est les meilleures marques pour vous de thermopompes, notamment les produits Move Air. Allez sur climatisationpaquette.com pour en savoir plus. C'est un service à l'intérieur de 24 heures qu'on vous offre. En attendant, Luc Laliberté, Pascal CV, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Eh bien, Christine Fréchette est à Washington pour une mission économique assez claire. La première ministre qui va rencontrer en 24-48 heures des acteurs politiques économique pour défendre les intérêts du Québec en vue de la révision de l'accord Canada, États-Unis et Mexique. Début de l'enquête publique sur le décès de Maëlyn Lugès aujourd'hui au Palais de justice de Québec. C'est une vingtaine de témoins qui seront entendus pendant 5 journées, dont les parents de l'ado retrouvé décédé dans un ruisseau près de son école à Saint-Jean-Chrysostome le 7 novembre 2024. Premier rapport du coroner qui avait été publié et qui concluait un décès accidentel par noyade, possiblement attribuable à un malaise. Mark Carney annonçait ce matin la création d'un fonds pour un Canada fort, le premier fonds souverain du pays. Le premier ministre canadien invite ses concitoyens à investir leur argent dans les grands projets nationaux pour faire du pays une superpuissance énergétique et diversifier aussi sur les marchés d'exportation. Deux détenus ont été violemment agressés à l'arme blanche au pénitencier de Donnacona vers 11h30 hier matin. On craint pour la vie de l'un d'eux. Les victimes ont été transportées à l'hôpital pour y soigner des blessures importantes. Il y a une enquête qui a été ouverte. Les enquêteurs des crimes majeurs ont été dépêchés longtemps sur place. C'est un événement qui s'ajoute à une bonne liste quand même jusqu'à maintenant.
Ah, vraiment, c'est complètement fou ce qui se passe dans nos prisons et nos pénitenciers. J'ai l'impression qu'à chaque 2 semaines, il y a des événements extrêmement violents qui se passent à Donnacona. Et là, c'est de plus en plus questionnant pour nos gardiens de prison, nos agents correctionnels. Vraiment, il faut faire quelque chose. C'est la guerre des gangs, évidemment, qui amène ça. Mais là, on a bien beau être séparés dans des ailes différentes. Ça continue quand même à se pogner et à brasser pas à peu près.
Bien, écoute, moi, je te l'ai dit, j'ai eu une conversation privée et anonyme avec un gardien de prison qui est toujours là en emploi. Puis c'est pour ça que c'est privé et anonyme.
Ben
ils
n'ont
pas la possibilité de parler.
Exactement.
Ils ont peur de bien des choses. Puis dans les informations que j'ai recueillies, entre autres, c'est comme le droit à la personne qui est trop important.
Ouais.
Notamment, c'est pour ça qu'on n'a pas encore des filets pour intercepter les drones comme il se doit, les barreaux aux fenêtres et tout ça. Parce que, entre autres, les filets enlèveraient de la lumière sur la cour des détenus. S'entends-tu que...
Ben non, c'est ça. Et là, ben les détenus sont armés au coton. L'événement qui s'est produit, là, de ça à peu près 3 semaines, quand il y a un individu qui est décédé, justement. Moi aussi, je connais des gens qui travaillent là-bas à Donnacona, puis ils me disaient, écoute, on n'aurait jamais pensé ça de ce gars-là. Mais il a été attaqué, puis ben lui aussi, il avait son arme artisanale, puis il s'est défendu, puis il en a tué un. Mais
reçu par drone.
Exactement. T'sais. Une personne qui est au pénitencier, mais pas pour des crimes violents. Donc, tu sais, les agents correctionnels disent, OK, lui, tu sais, jamais il va s'en prendre à quelqu'un. Il s'en est pas pris à personne, il s'est juste défendu. Mais il s'est défendu avec l'effet qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Là. Donc, tout le monde est à risque de de créer, je devrais dire, de la violence, justement, cause du climat qu'il y a.
C'est ça. Puis tu sais, on avait parlé d'un détenu qui était complètement désorganisé, qui s'en était pris à des agents, puis je t'avais posé la question à me dire, hey, attends un peu, mais tu une chose qu'on peut retenir de ça quand même, sans lui donner aucun crédit, mais juste à dire, si lui, il dit que c'est le chaos total puis qu'on se désorganise en prison, il y a peut-être un petit élément à aller chercher là du fait que s'il vire paranoïaque dans l'encadrement qu'on donne à ces détenus-là, est-ce qu'il manque pas un peu de pouvoir aux gardiens de prison? Ça n'a pas été perdu au point où on est en train de tout le temps être sur le qui-vive puis peut-être devenir des criminels encore plus endurcis à l'intérieur.
Ils peuvent plus les envoyer au trou.
Donne en partant.
Donne plus de conséquences. Ben la violence va juste augmenter. Là.
Plus de 25 000 $ d'amende qui ont été remises par le SPVQ en seulement une semaine à des automobilistes qui n'ont pas respecté le nouveau sens unique près du Grand Théâtre. On en a profité pour être très proactif. Hey,
ça, ça me sidère qu'on donne autant de contraventions. T'sais, il me semble que c'est des nouvelles... C'est une nouvelle signalisation. D'un, il faut se poser la question de la signalisation. Est-ce qu'elle est déficiente à voir le nombre de contraventions?
Un petit temps d'adaptation, t'aurais demandé.
C'est ça, t'es un petit avertissement, un petit de sensibilisation. Là, je trouve ça tôt.
C'est une demande d'accès à l'information qui a permis au Journal de Québec de savoir que c'est 137 amendes pour un total de 25 619 $ qui ont été remises en quelques jours. C'est énorme. Et c'est des données qui s'arrêtent au 20 mars. Alors, combien par après? Mais on indique que c'est une tendance qui s'est maintenue dans les journées suivantes. C'est quand même important. Je vous rappelle, le sens unique, ça, c'est en vigueur depuis le 16 mars. C'est sur la rue Jacques-Parizeau, entre les rues Clairefontaine et Turnbull. C'est près du Grand Théâtre. Parlant d'argent, il y a près d'un Québécois sur deux qui seraient pour le retour de péage sur certaines routes de la province. Si jamais ça pouvait nous permettre de financer des infrastructures routières un peu plus conséquentes pour nos voitures, tiens. Et c'est le sondage Léger qui a été cité ce matin par le Journal de Québec qui nous donne cette proportion de 48 % qui se dit en faveur contre 46 contre et 7 % qui ne sait pas.
Je sais pas pour toi, Pascal, mais moi, je suis pour des meilleurs investissements de la part du gouvernement avec mon argent, puis je suis pour aussi que les entrepreneurs fassent un travail plus durable. Avant de payer.
Oui, peut-être.
Additionnel.
Tu penses qu'on pourrait aller voir en amont, mais en même temps, c'est une histoire de finance. Peut-être utilisateur payeur. C'est tout le temps complexe. Pour l'éponge, j'ai une autre opinion. Mais bon.
Non, exactement.
Et oui, je termine sur cette nouvelle qu'on s'en va aborder avec notre prochaine invitée. C'était le dîner des correspondants. On réunissait samedi soir des journalistes, des politiciens, des célébrités à l'hôtel Hilton de Washington. Et ça a été interrompu par des coups de feu. Il y a des images qui sont balancées partout sur les réseaux sociaux. On voit Donald Trump et son vice-président J.D. Vance, notamment, qui ont été pris là, par les épaules. Ah oui, on les sort d'urgence. Et Trump et ses membres ont été ciblés par un suspect. On l'a arrêté. Le tireur serait Cole Thomas Allen, Californien, 31 ans. Mais c'est sûr que ça fait beaucoup réagir.
Pour en parler, on va justement rejoindre Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également producteur et concepteur des capsules sur les médias sociaux La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu?
Je vais bien. Écoute, un petit rhume de saison. Je m'excuse pour la voix ce matin, mais on a un début de printemps, donc ça vient avec. J'en profite.
Exactement. Luc, on va parler prochainement avec Alex Laramé de la série canadienne T'aimes pas bien, mais je sais que tu es un grand fan de sport. Tu penses quoi de cette série-là jusqu'à présent?
Ah, misère, que c'est dur pour nos nerfs. Donc, hier, j'étais bien excité parce que pour la première fois, on était à 2-0, donc aucune des deux équipes n'avait eu une avance de 2 buts.
En effet.
Mais on a bien vu à quel point ça se joue sur pas grand-chose, finalement. Un avantage numérique, une mauvaise pénalité. Et j'ai hâte de voir si, pour le prochain match, Cole Caulfield a, entre guillemets, débloqué hier, donc son premier but. Mais j'ai hâte de voir si Slavkovski va se remettre, finalement, de ce coup-là qui, selon moi, a changé le match hier.
Je m'excuse de vous interrompre, les gars. On est toujours dans cette intervention au centre de détention de Québec, une partie du centre de détention qui est confinée. Réception d'informations, il voudrait qu'une arme à feu artisanale se soit frayée un chemin à l'intérieur des murs de prison. On est en lockdown depuis 8h30. Les informations commencent à sortir dans les dernières minutes. On veut permettre aux autorités de fouiller les détenus de façon sécuritaire. Des secteurs, comme je vous disais, qui sont confinés. Parmi ceux-ci, il y a les détenus des North Savage Gang. C'est des anciens représentants du Blood Family Mafia, ceux de Pic-sur-Mel qui se sont rassemblés dans une autre gang et qui essaient de faire leur loi. C'est des sanguinaires, c'est ceux qui n'ont pas vraiment de limite. Puis on dénombre quelques dizaines de détenus dans les ailes ciblées là, par l'opération. Donc, c'est l'information que j'ai pour l'instant.
Merci beaucoup, Pascal. C'est vrai, quand on dit justement que protéger nos prisons, c'est difficile. On parle peut-être d'une arme à feu à l'intérieur des murs. Alors, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça fait le pont, tiens, Luc, arme à feu.
Oui, voilà.
Attentat samedi soir dans un hôtel Hilton de Washington où la communauté journalistique était réunie. Premièrement, est-ce que tu penses que là, on va renforcer les mesures de sécurité? Parce que je trouve ça particulier quand même qu'on tienne ça dans un hôtel, mais qu'on n'ait pas fouillé les chambres ou quoi que ce soit avant.
Ben écoute, moi, c'est la première question. C'est arrivé soudainement là, pendant la soirée. Ma première question, ma première interrogation, c'était, écoute, c'est la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump. Il y en a eu une, on le sait, en Pennsylvanie. Et encore là, c'est une faille de sécurité. L'individu qui était sur le toit, normalement, n'aurait pas dû se retrouver là. Ça aurait dû être inspecté à l'avance. La deuxième fois, ben, on a frappé plus tôt. Donc, on l'a arrêté, mais il était en embuscade le long du terrain de golf. Et là, dans un hôtel, alors que tu as non seulement le président, mais toute la chaîne de succession du président, ça ne peut pas être plus gros comme événement en termes de pouvoir ou de gestion du pouvoir aux États-Unis. Et je me suis étonné tout de suite, comment se fait-il que cette personne-là se soit retrouvée finalement à un poste de vérification et une porte de pouvoir faire des dégâts épouvantables. Et l'autre chose qui m'a étonné, et ça je ne le savais pas quand ça s'est produit, c'est que dès le lendemain, et c'est confirmé ce matin, on nous a annoncé que contrairement à ce qu'il y a par exemple pour le discours sur l'État de l'Union qui se fait au Congrès, où là, on a hein, les gens de la Chambre, du Sénat, président, vice-président. Contrairement à ce genre de soirée-là, on n'était pas au maximum de la sécurité qu'on peut offrir, donc, aux hommes, aux femmes, aux décideurs, au plan politique. Et ça, ça a été une autre de mes grandes interrogations, mais après coup, comment se fait-il qu'on n'ait pas mis ça au maximum alors que tout le monde est là? Il y avait de la sécurité, n'entre pas qui veut, mais visiblement, ce n'était pas suffisant. Je répète, on était à une porte d'ouvrir le feu sur des gens de l'administration, des secrétaires ou conseillers, l'équivalent des ministres, le président et le vice-président. Donc, c'est énorme.
Non, exactement. Puis Luc, corrige-moi si je me trompe, mais déjà que le Congrès est quand même bien sécurisé, puis c'est pas facile d'accès. C'est beaucoup plus facile d'accès dans un hôtel au centre-ville de Washington qu'au Congrès. Donc, on devrait être vraiment à sécurité maximum dans un endroit public de ce type-là?
Tout à fait, tout à fait. Et normalement, ça l'est. Donc, on a les informations, même si on ajoute d'heure en heure un peu plus d'informations, ça demeure pour l'ensemble d'une opération qui est aussi grosse que celle-là, ça demeure fragmentaire. Donc, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de voir, entre autres, là, ce sont des failles de sécurité à répétition. Et il ne faut pas s'y méprendre, hein, ou faut pas se faire prendre au jeu. Là. Un hôtel comme le Hilton, là, c'est des jours à l'avance qu'on fait du repérage normalement et qu'on installe les différents paliers de sécurité jusqu'à l'entourage immédiat du président. Quand un président américain passe quelque part, si vous avez des amis qui vivent à New York, par exemple, quand le président américain débarque, là, on voit arriver les services de renseignement longtemps à l'avance et on bloque tout autour. Donc, ça rend la chose d'autant plus étonnante.
Juste, nous, quand on reçoit un premier ministre, là, c'est voilà. Les chiens pisteurs, c'est les gardes de sécurité la veille.
Ils viennent des jours à l'avance voir les sorties de secours sont hautes. Tout ça, t'as entièrement raison.
Des gardes du corps partout. Puis ils n'ont pas matière à rire avec nous, même si on a envie de faire des blagues. Fait que, tu sais, c'est particulier et il faut accorder un peu plus de temps à ça, je pense, dans notre conversation avec toi, parce que ça alimente les complots.
Tout à fait. Écoute, ça a été... j'ai été étonné parce que souvent, quand je regarde sur les réseaux sociaux, ceux qui suivent mes activités, puis je suis content, ils sont somme toute assez modérés. Et c'était presque unanime. Les gens n'y croyaient pas, ce qu'on disait sur les réseaux sociaux. J'écoute comme eux une foule de questions. Je viens d'en évoquer deux avec vous autres. Là. Comment se fait-il qu'on n'était pas au maximum de sécurité? Et comment se fait-il qu'un individu soit arrivé aussi près?
C'est la même question pour l'ancien tireur là, dont on parlait quand il y a eu la première tentative de meurtre pour Donald Trump. Là.
Tout à fait. Mais ça montre à quel point les gens maintenant, à la fois face à Donald Trump, mais face à la classe politique ou aux autorités en général, à quel point il y a une crise de confiance qui est majeure. Donald Trump lui-même a joué sur cette crise de confiance. Ce n'est pas la première fois, même si Donald Trump le fait à une échelle qui est du jamais vu dans toute l'histoire américaine, ce n'est pas la première fois que les dirigeants américains cachent de l'information, déforment de l'information ou ne partagent pas toute l'information qu'ils ont sur des événements, des guerres, des attentats, etc. Et Donald Trump, qui lui avait été élu en disant « Écoutez, ces gens-là vous mentent, mais votez pour moi, puis je vais vous débarrasser de cette espèce de clique ou d'état profond qui dirige tout. » Donald Trump ment plus en moyenne que ses prédécesseurs. Ce qui fait qu'on se retrouve devant une situation maintenant où on a quelque chose de grave. Quand on parle de complot, en passant, pour ceux qui nous écoutent, là, je n'ai pas toutes les réponses, c'est clair. Mais ça veut dire que les services de sécurité seraient dans le coup aussi. Ce n'est pas que le vice-président ou le président ou son administration. On parle de tout ce qui est responsable de la sécurité qui serait partie prenante d'un complot. Ce serait énorme. Mais pourtant, en termes de perception, on a beaucoup de gens qui disent non, là, c'est la troisième fois, ça ne va pas bien pour le président dans les sondages, il ne voulait plus parler d'Epstein, il ne voulait plus parler de l'Iran, il voulait vendre sa salle de bal comme étant sécuritaire. D'ailleurs, les Républicains disent maintenant, oui, OK, on est prêt à soutenir le projet de salle de bal du président. Et Donald Trump lui-même, le soir, la nuit, finalement, suivant l'arrestation du tireur, le président qui a dit, moi, je pense qu'on devrait faire ça dans ma salle de bal, ça fait longtemps qu'on en a besoin et elle va être sécuritaire. Mais tout ça ensemble, ça nous donne un chaos assez extraordinaire qui fait que, peu importe les arguments que je pourrais sortir, les gens sont souvent, pas tous, convaincus que ce n'est pas vrai, cet attentat-là. Et pourtant, de la violence face aux politiciens aux États-Unis, elle est en pleine montée dans les dernières années. Donc, il n'y a pas eu que Donald Trump. Il y a le mari de Nancy Pelosi qui a été battu presque à mort. Il y a un politicien et sa conjointe au Minnesota qui ont été abattus dans leur domicile. Hier, sur place, il y avait des politiciens, dont un républicain, Steve Kelly, sur lequel on avait tiré alors qu'il participait à un match de baseball amical entre les représentants de la Chambre des représentants. Donc, il y a une violence qui est à la hausse et moi, je suis très inquiet, un, de cette hausse de violence. On va convenir du fait que c'est tout sauf sain. Et deux, qu'on a tendance finalement à nier que ça puisse se produire et ça ouvre la porte à d'autres répétitions ou encore, pourquoi pas, aux autorités de recourir à des mesures encore plus fortes, voire peut-être abusives, en jouant avec des éléments de sécurité.
Non, en effet, tu as entièrement raison, Luc. Hey, tu parlais de chaos tout à l'heure, justement. C'est encore le chaos en Iran. On apprenait ce matin qu'il y a encore 850 navires qui sont bloqués, peuvent pas traverser le détroit d'Ormuz. Et là, l'Iran qui est en Russie aujourd'hui pour parler avec les Russes, explique-nous ce que tout cela signifie.
Parfait. Donc, écoute, d'abord, il y a eu une offre très, très récente du ministre de la Défense iranien aux États-Unis. Et le ministre se concentre cette fois-là sur « Ouvrons le détroit d'Ormuz ». C'est assez flou, c'est assez vague comme offre parce qu'on n'a pas les détails. Qu'est-ce qu'ils sont importants, ces détails? Mais donc, c'est de s'entendre avec les États-Unis pour débloquer le détroit et qu'on reprenne la circulation, qu'on libère plusieurs des 800 quelques navires qui y sont bloqués actuellement. Un problème majeur avec cette offre-là, c'est que ce qu'on dit aux Américains, du moins que le ministre de la Défense, c'est on va débloquer le détroit, puis le nucléaire, on va en parler, mais on va en parler plus tard. Et je ne vois pas comment le président Trump ou ses conseillers, comment les militaires peuvent dire on va donner le OK à une entente qui exclut, ne serait-ce qu'à court terme ou pour le moment, la question du nucléaire. Donald Trump a donné beaucoup de justifications pour ce conflit-là. Parfois, il s'est contredit. Mais s'il y a une chose à laquelle il est demeuré fidèle...
C'est le nucléaire!
Ben voilà. Donc, d'un côté, il y a cette offre-là. Donc, je ne vois pas comment les Américains, à moins de vouloir déclarer une victoire très courte et très rapide, là, regardez, ils ont craqué. Je pense que ce que ça vient témoigner, ce dont ça témoigne, cette offre-là, c'est qu'effectivement, l'Iran est plus faible qu'elle ne l'était auparavant. Et si c'est le ministre de la Défense qui parle, ça sème le doute aussi sur la cohésion ou l'unité du nouveau groupe de dirigeants, parce qu'on sait qu'on a tassé, éliminé un grand nombre de dirigeants. Maintenant, pourquoi on va du côté de la Russie? Vous aurez remarqué que le discours de l'Iran, bien sûr, fait porter l'odieux de l'échec des négociations aux Américains. C'est une chose qu'on est allé dire en Russie, mais la Russie est un partenaire de l'Iran depuis des années. On peut parler de pétrole, on peut parler d'échanges en tout genre, on peut parler de sécurité, de protection, d'alliance. Donc, c'est pas anodin qu'on aille voir les Russes. Et les Russes, pour moi, avec les Chinois, sont à court terme. Dans le cas de la Russie, ça me semble assez évident. Et si on parle du moyen et du long terme, ce sont deux pays qui ont à gagner actuellement de ce qui se passe en Iran. Quand je dis à gagner, pour la Chine à court terme, c'est plus difficile. Il y a des pertes. Ce conflit-là coûte cher. Mais chaque fois qu'on vient déstabiliser les États-Unis, affaiblir les États-Unis, à moyen et à long terme, c'est avantageux pour la Chine, qui a l'avantage, bien sûr, si on est Xi Jinping, d'être dans un régime autoritaire et non pas une démocratie. Quand Xi Jinping regarde les sondages chez lui, ça le trouble pas mal moins que si je suis un républicain en élection cette année.
En élection de mi-mandat, en effet. Luc, la liberté, voilà. Toujours un bonheur de te parler. On se reparle rapidement parce que ça va continuer de brasser en politique américaine, comme toujours.
Une bonne semaine à vous trois, puis une bonne semaine à vos auditeurs. Bye.
Merci. Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et également concepteur et producteur des capsules La Liberté en clair sur les différents médias sociaux. On en jase.